Ok, on est dans notre série de messages et je me réjouis de vous apporter le message de ce matin sur réveiller les héros. Alors, j'ai fait une introduction à cette série de messages en début d'année. Et puis, il y aura des moments, ça ne va pas être une série dans le temps suivi dimanche après dimanche. Il y aura des dimanches entre deux, on a des invités, etc. Mais ça va être quand même une série que je vais apporter dans les semaines et quelques mois qui viennent. Et je me réjouis d'apporter le message ce matin dans ce sens. On pourrait penser que l'étoffe des héros se puise dans des vies qui viennent des bas-fonds, des vies qui sortent des ténèbres. On a tous entendu des histoires venues tout droit parfois d'Hollywood, où un pauvre Pékin dans une situation inextricable, sans le sou, seul, à la rue, arrive à conquérir le monde et à renaître de ses cendres tel un phénix. Travaillez fort sur cette phrase. Et le public aime cela, un certain public en tout cas, mais une majorité, parce que ça rejoint, je crois, cette majorité de la population, monsieur, madame, tout le monde, qui n'est pas forcément immensément riche, puissant, ou bâti comme des Apollons, ou Apollettes.
Aphrodite.
Ou Aphrodite, ça. Mais qui réussissent dans la vie, qui gagnent le monde. Parfois, c'est vrai. Dieu va chercher des personnes dans des situations pas possibles pour les relever et les utiliser pour sa gloire. Et c'est tellement magnifique. Les capacités que Dieu a d'aller chercher des gens dans les bas-fonds et dans les ténèbres. Et souvent, ce genre de témoignages sont utilisés par Dieu puissant. Et souvent, aussi, Dieu utilise des gens avec des vies qui sont dans la norme, qui n'ont pas forcément un témoignage incroyable de bagnard ou de prisonnier ou de dealer ou je ne sais quoi. Rien forcément de grandement extraordinaire aux yeux de ce monde. Un peu comme moi, peut-être toi aussi. Mais aussi comme ce personnage que j'aimerais vous apporter ce matin, le personnage de Joseph. Alors le titre de mon message ce matin est celui-ci, Joseph, ou comment Dieu forge un héros. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Vous êtes d'accord? Hein? Marie-Vonne, vous la connaissez, mais on va se rafraîchir la mémoire. Joseph était un homme, ou un jeune homme, ordinaire pour l'époque. Petit dernier d'une grande famille, il était choyé. Son père Jacob avait hérité de la grande fortune et des biens de son père Isaac, qui lui-même avait hérité de la grande fortune de son père Abraham. Souvenez-vous, les nombreux troupeaux qu'il avait. Tellement nombreux qu'il a dû se séparer avec Lot. À un moment donné, on n'arrive pas à avoir les mêmes pâturages au même endroit, ça ne va pas, nos bergers se disputent, etc. Ça, c'était son grand-père, Abraham. Les fils de Jacob travaillaient, eux, pour faire paître les troupeaux, à prendre soin des grands troupeaux de leur père. Et les deux femmes de Jacob avaient chacune une servante. Une vie normale et tranquille dans ce beau pays d'Israël pour cette époque. Seulement Jacob faisait des préférences avec Joseph, qui était son seul fils qu'il avait pu avoir avec sa femme Rachel, et qu'il avait eu dans sa vieillesse, nous dit la parole. Alors il l'aimait tout spécialement, tout particulièrement à cause de ça. Et il avait fait de Joseph son petit chouchou. Alors peut-être aujourd'hui, ça fait doucement sourire. Mais pour les frères de Joseph, à l'époque, ça commençait à peser lourd au fil du temps qui passait, ces préférences-là. Surtout quand le jeune Joseph, alors que, peut-être dans cette naïveté de sa jeunesse, alors qu'il avait reçu des songes pendant la nuit, il commençait à venir les agacer avec le récit de ces songes dont il venait leur conter l'histoire, rappelez-vous. Eh les gars, cette nuit, sais-tu, j'ai rêvé un truc. Ok, Joseph, ça va, t'as bien déjeuné pendant que nous on s'est levé à point d'heure pour aller traire les chèvres et tout ça. Ça va, t'as bien déjeuné, t'as pris ton temps, t'es quelle heure il est? Ok, raconte-nous ta petite histoire, mon Joseph, vas-y. Eh bien, pendant que je rêvais cette nuit, eh bien, j'ai vu des gerbes. Ces gerbes, elles nous représentaient. Il y avait ma gerbe à moi, puis il y avait vos gerbes à vous, des gerbes de blé. Et puis, à un moment donné, vos gerbes se sont mises autour de la mienne, et moi, j'étais bien comme ça, là, bien droit, et ils sont tous inclinés, prosternés devant moi. Ça va, les frangins? Je retourne me promener pendant que vous occupez comme il faut des... Ça, quand il avait passé la colline, franchement, quoi. Comment ça me gonflait, lui. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui clouer le caquet? Hein, le petit jeune, là, avec sa belle tunique, là, la plus jolie que papa lui a faite. T'as vu, nous, avec quoi on doit se ramaler un peu? Le lendemain matin, 11h30. Hé, les gars, ça va ce matin? J'ai bien déjeuné, papa m'a fait bien déjeuner ce matin. J'ai de nouveau eu un songe cette nuit. J'ai vu des étoiles dans le ciel, il y avait le soleil et la lune, et puis toutes les étoiles sont venues devant mon étoile à moi, et puis elles se sont toutes fraternées, y compris le soleil et la lune. Ok, Joseph, retourne vers papa, avant qu'on te fasse du mal. Ça va, je vous laisse, les frangins, ça va, je vous laisse. Il rentre à la maison, il raconte ça à Jacob. Jacob lui dit, tu es en train de me dire que moi et ta maman, on devrait se prosterner devant toi avec tous tes frangins, c'est ça? Calme-toi un petit peu, hein, d'accord? Jacob lui a dit ça, hein? Calme-toi un petit peu. Mais les frangins, eux, ils n'avaient pas envie de se calmer parce qu'il y avait comme un point de non-retour qui était passé. Ils avaient laissé l'amertume, ils avaient laissé le ressentiment, ils avaient laissé cette colère, cette rage commencer à monter en eux, en tout cas pour la plupart. Et ils ont commencé à réfléchir très sérieusement, à mettre en pratique, à mettre en place, comment est-ce qu'ils allaient faire pour attraper leur frangin puis lui donner une bonne leçon, ce petit Joseph, quoi. Alors un prochain jour, il est arrivé, un matin, tout frais, tout tranquille, tout plein de jolies petites couleurs après avoir fait la grasse matinée vers eux. Et puis, ils se sont littéralement jetés sur lui. Et ils l'ont mis dans une citerne. Certainement que ce n'était pas une certaine citerne qui était pleine, parce qu'il ne savait certainement pas nager, puis il n'aurait pas fait long feu. Donc, c'était certainement une citerne qui était déjà bien... Le niveau de l'eau avait bien baissé, donc il a dû se retrouver les jambes dans la boue, bien coincé dans la citerne, mon Joseph. Puis là, il a commencé à flipper. Et puis, je ne suis pas certain qu'ils avaient l'intention encore à ce moment-là de le laisser mourir là. Mais en tout cas, il voulait lui donner une bonne leçon. Et puis quand une caravane de marchands madianites a passé, eh ben, ils se sont dit, les frangins, tiens, bonne idée, on va le vendre. Comme ça, on sera débarrassé de lui une fois pour toutes. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent à cette caravane de madianites qui venait de passer. Incroyable. Alors, bien sûr que le frangin, il devait les gonfler sérieusement, puis que peut-être qu'il aurait dû comprendre qu'il fallait dire les choses autrement, mon Joseph. Hein. On doit tous apprendre dans la vie, hein, des fois à dire la vérité avec des formes. Mais est-ce que ça méritait ça? Alors, il va se retrouver, mon Joseph, à devoir suivre cette caravane, tout à coup, du jour au lendemain, passer du statut de fils privilégié, avec la belle tunique, à ne pas toujours avoir besoin de se salir les mains avec le troupeau, parce que chouchou de papa, au statut d'esclave, du jour au lendemain. Et là, ils vont marcher pendant des jours, des semaines peut-être, et finalement, pour arriver en Égypte, et être vendu en Égypte à cet homme, Potiphar, qui était un chef de la garde royale du pharaon. Pas n'importe qui. C'était un haut fonctionnaire. Et il va avoir une certaine faveur de Dieu sur sa vie, alors qu'il va faire consciencieusement son travail. Déjà juste là, on pourrait faire une série de messages juste là-dessus, c'est juste fou. Alors qu'il était au fond du trou, qu'il était devenu comme un esclave, qu'il avait perdu tous ses repères, il arrivait dans un pays où on ne parlait même pas la même langue que lui. Il se retrouve dans cette maison de Potiphar et il n'a plus le statut du fils de l'homme de la maison, quoi. Non, il commence tout en bas de l'échelle. Mais il y a une faveur de Dieu sur sa vie parce que cet homme, il cherche à bien faire les choses. Il cherche à garder son cœur plus que toute autre chose. Alors Dieu lui donne faveur dans le cœur de Potiphar et Potiphar voit son sérieux. Et alors qu'il voit son sérieux, il va commencer à lui confier les choses de sa maison. Et il prend du galon dans la maison de Potiphar. Ce n'était pas une petite maison, il y avait 2-3 servantes. C'était un des hauts fonctionnaires de l'État d'Égypte qui était la puissance de l'époque. Et il va se retrouver responsable de tous les biens de Potiphar. Il lui a fait confiance totalement. Jusqu'au jour où la femme de Potiphar va s'intéresser à lui, étant donné que son mari n'était pas souvent là, avec ses fonctions de haut fonctionnaire, du roi, de chef de la garde royale. Il était souvent à l'extérieur, souvent absent, et sa femme a commencé à faire des avances à Joseph. Elle voulait coucher avec lui, elle voulait s'emparer de Joseph. À tel point qu'un jour, alors que Joseph refusait ses avances, un jour, elle l'a saisi. Couche avec moi, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et j'aimerais nous dire ce matin, un des grands exemples de la parole de Dieu face à la tentation, c'est Joseph. Face à la tentation qui se pointe à la porte de nos cœurs, à la porte de ton cœur, jour après jour. Lorsque tu es sur la route, lorsque tu es chez toi à la maison, lorsque tu es sous ta douche, lorsque tu es devant ton écran, lorsque tu es en train de parler avec des amis ou avec tes voisins, etc. La tentation est là. D'une conversation, d'une image, d'une avance, d'une voisine, d'une collègue de travail, d'un collègue de travail, etc. La tentation est là. Et Joseph est un exemple extraordinaire de comment réagir face à la tentation qui est là. Joseph a tourné le dos, il a décidé, il a pris sur lui, il s'est discipliné et il a dit « Non, je fuis, je m'en vais, je fuis cela. Éteins ton ordinateur, arrête cette conversation s'il le faut, fuis cela, tourne le dos à ces choses. » Tant qu'on laisse ces choses-là, ça va aller. Qu'on se laisse happer par ces choses-là, ça nous prend la main, ça prend prise sur notre bras, ça prend prise, puis plat, à un moment donné, le point de non-retour est passé, et puis on ne peut pas s'empêcher de se vautrer dans cette tentation qui est là et dans le péché qui suit. Joseph a choisi, elle s'agrippait à lui, nous dit la Bible, elle s'agrippait à lui, il a dû lui laisser sa tunique en partant. Il est parti, puis lui arracher sa tunique, puis lui il est parti comme ça. Il a fui. Ça demande du courage. Ça demande de la détermination. Ça demande de la détermination dans le quotidien de nos vies. Et vous en savez quelque chose. Si chacun d'entre nous venait témoigner, il n'y aurait pas un qui pourrait dire « Non, non, moi, pas de problème avec la tentation. Nickel, tout va bien. Non, non, pas de problème. Ça glisse sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. » Chacun dans nos domaines, chacun dans nos défis, chacun dans nos tentations. Si chacun de nous s'exprimait ce matin, il n'y en aurait un qui dirait « Moi, j'ai une tentation dans tel domaine, moi, c'est plutôt dans tel domaine. » Rien à voir. Parce que on a nos vies, on a nos parcours, on a nos combats propres. Mais c'est la même réponse à la tentation, la même réponse que Joseph a donnée là. Alors, il s'en est allé, puis évidemment, ça n'a pas plu à madame. Comment ça, le serviteur, là? Il n'obéit pas. Il ne fait pas ce qu'on dit. Donc elle s'est dit, bah tiens, je vais trouver une bonne solution, peut-être par crainte aussi de ce que Joseph aurait pu raconter à Potiphar quand il serait rentré. Donc elle a préféré le devancer, puis quand Potiphar est rentré, au secours, Joseph a voulu me violer, Joseph a voulu me faire du mal, il a voulu me violenter, etc. Puis évidemment, Potiphar, je crois ma femme. Alors grande colère,
et du coup, il se retrouve plus bas que la case départ encore, en prison. 7 années. Pendant 7 années, je ne te parle pas de 7 semaines, 7 jours ou 7 mois, 7 années, pendant 7 ans, il va se retrouver en prison. Incroyable. Et alors qu'il se retrouve dans cette prison, je vous passe les détails, on n'a pas le temps de voir ça, mais alors qu'il se retrouve dans cette prison, il y a un pantier, il y a un échanson qui sont là, qui sont en prison aussi avec lui, et dans le temps qui va passer, ils vont avoir des songes, et puis un va avoir un songe, le pantier qui va avoir un songe, où Joseph va trouver l'explication, il va lui dire dans 3 jours, on va venir te chercher, et puis tu ne seras plus. Pour dire les choses calmement. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et puis les chansons, lui, il va aussi avoir un songe. Et puis Joseph va lui donner la réponse à ce songe. Il va lui dire, dans 3 jours, on va venir te chercher, puis tu vas sortir de prison. Ah ouais, sérieux? Trop sympa. C'est exactement ça qui est arrivé. Et puis, on aurait pu se dire, ben, sympa, quoi, les chansons vont sortir, il va raconter des trucs à Pharaon, et puis il va aider Joseph à sortir de prison. Non, il s'est passé encore beaucoup de temps entre deux, mais un jour, Pharaon lui-même va commencer à avoir des songes qui vont le perturber. Des vaches maigres qui sont là, des vaches grasses qui sont là, puis les vaches maigres qui mangent les vaches grasses, etc. Les vaches grasses, etc. Il ne comprend pas, puis alors il fait venir ses sages, il fait venir tous les gens qui sont des mages, et les gens qui pouvaient lui révéler des trucs qu'on ne voit pas avec nos yeux, et il les fait venir, et puis tous, ils sont perplexes face au songe de Pharaon. Et à ce moment-là, l'échanson qui est au service de nouveau du Pharaon, eh bien, il va se rappeler de Joseph et que Joseph, dans sa prison, avait révélé les songes qu'ils avaient reçus et que ça s'était avéré être vrai. Donc il y a quelque chose, lui, il est capable de le faire. Il en parle à Pharaon, et puis Pharaon dit, bah, va le faire venir, hein, mon petit gaillard, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, moi, dans ce que je rêve, là, j'aimerais une explication. Alors il fait venir Joseph, et puis Joseph lui explique. Il lui dit, ces vaches-là, ça représente 7 années. Il y avait 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Ça représente 7 années d'abondance qui vont avoir lieu ces 7 prochaines années. Et puis, il va falloir engranger un maximum pour profiter de cette abondance, parce qu'après, il va y avoir 7 années de sécheresse, 7 années de disette où on ne pourra plus faire des récoltes. Tout ce sera tellement sec qu'on ne pourra plus, on pourra plus avoir les récoltes. Donc, faisons ça. Alors, Pharaon, quand il voit ça, il dit, waouh, il reconnaît que Dieu est derrière tout ça. Et il dit à Joseph, eh ben, je vais te nommer. Je vais te nommer responsable. Je vais te nommer premier ministre. Tu vas te mettre à gérer tout ça. Et puis à part moi, il n'y aura personne d'autre que toi aussi important dans le pays. Il ne se passera pas un truc sans que tu l'aies décidé. Waouh. Il a pris du grade quand même, un petit coup là, pas mal, hein. Incroyable. Et donc, il va se retrouver à accomplir ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas comment il s'est senti pendant cette année-là. Hein? Tu flippes un peu, tu te dis, est-ce que ça va s'accomplir le truc ou pas, t'sais? Si ça ne s'accomplit pas, je ne vais pas avoir l'air fin, je peux faire cette année, puis hop, je retourne de nouveau 7 ans en prison après, ou pour le restant de ma vie, si ça ne s'est pas accompli. De quoi je vais avoir l'air? Et puis, ça s'accomplit. Au bout de 7 années de vaches grasses, d'abondance de récoltes, Joseph s'était bien organisé, il avait engrangé plus que les récoltes qu'ils avaient besoin pour vivre sur l'année pour le pays. Il avait mis de côté tout ce blé qu'il avait eu en plus pendant ces années-là. Et la famine est arrivée. Et la famine est arrivée en Égypte, mais elle est arrivée sur tous les pays alentours. Alors ça veut dire que les pays adjacents, autour, se sont retrouvés eux aussi dans la disette. Comment le plan de Dieu s'accomplit de manière incroyable? Et alors que la disette fait rage en Israël aussi, la famine commence à se faire sentir dans la famille de Jacob aussi. Chez les frangins, 20 ans qui s'est passé, 20 années se sont passées depuis le jour où ils avaient vendu Joseph à cette caravane de marchands madianites. Et ce jour-là, 20 années, Dieu a un plan. Au bout de 20 années, c'est l'examen. un examen, paraît-il, sert à savoir, à vérifier si ce qui a été appris durant l'année, le semestre, a été assimilé. La définition du dictionnaire pour le mot examen, c'est épreuve ou série d'épreuves que subit un candidat sur ses qualités, ses facultés ou ses capacités en vue de vérifier son degré d'instruction ou d'apprécier ses aptitudes au moyen de tests. Au moyen de tests. Comment mieux savoir si Joseph avait bien assimilé la matière de ces 20 dernières années, les leçons des épreuves de la vie par lesquelles il avait passé, les principes d'amour et de grâce de Dieu, malgré tout, que de lui faire rencontrer ses frères bourreaux. Hein ? Voir s'il serait capable de faire grâce, de pardonner 20 ans après. Durant mes années de pastorat et de rencontrer beaucoup de personnes, j'ai constaté la difficulté qu'a l'être humain à pardonner. Et qu'il y a souvent cette fausse pensée qu'avec les années, les choses seront moins dures, moins douloureuses. Mais j'ai rencontré des personnes qui, 20, 30, 40 ans plus tard, ont encore mal comme si c'était le premier jour. Une blessure ouverte, béante parfois, encore tant d'années après. Joseph est vraiment un héros de la foi. Joseph est vraiment un héros de la foi, avec une vie tellement encourageante pour nous. J'ai beaucoup d'admiration pour ces personnages bibliques. Il est d'ailleurs un type de Christ, vendu pour quelques pièces d'argent. Un exemple de ce que fera pareillement, pleinement bien sûr, Jésus plus tard sur la croix pour chacun d'entre nous, ce sacrifice de grâce. Jésus lui-même sur la croix, avant de rendre son dernier souffle, va dire ceci, quelle parole qui résonne encore aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Quelle grâce! Le pardon de Dieu pour tous nos péchés, pour tes péchés, pour les miens, encore aujourd'hui. Et c'est cette vie en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ce même Esprit qui a permis à Jésus de pardonner à ses bourreaux, qui nous aide aujourd'hui encore à laisser le pardon, l'amour de Dieu faire son travail en nous face aux injustices de cette vie ici-bas. Et de ne pas ou de ne plus vivre avec le poids de l'amertume, c'est possible. Le poids du non-pardon qui nous ronge de l'intérieur. Imaginez-vous cette scène en Égypte. Joseph est premier ministre. Dieu lui a parlé 7 ans avant, très clairement. Il a pu interpréter ses songes de Pharaon et la sécheresse est arrivée. Et Dieu utilise ces circonstances pour pousser ses frères hors d'Israël. Il a un plan dans tout ça. Pousser les frères de Joseph hors d'Israël en Égypte et les faire se rencontrer à nouveau. Jacob envoie donc ses fils, sauf Benjamin. Benjamin qui était le petit dernier qui est arrivé après Joseph, de Rachel aussi. Alors il envoie ses autres fils pour aller en Égypte, pour aller chercher des vivres. 20 ans que Joseph n'avait pas vu ses frères. 20 ans que le péché les avait privés de se voir, avait séparé cette famille, Joseph de sa famille. 20 ans qu'ils n'avaient pas pu voir, ils n'avaient pas pu voir ses frères grandir, se marier, avoir des enfants. Peut-être pour les plus aînés, il avait quand même pu déjà voir un peu ça, mais 20 ans que le péché avait tenu éloigné Jacob de son fils Joseph, qu'il croyait être mort. 20 ans que Joseph avait été privé de sa famille, tant aimée à cause de ce péché. Alors je vous passe les détails, on ne peut pas tout voir ce matin. Évidemment, les frères se retrouvent face à Joseph. Ils ne le reconnaissent pas. Il y a 20 ans qui est passé. Eux certainement pensent qu'il devait être disparu quelque part, peut-être mort. Les esclaves ne faisaient pas, souvent pas long feu dans les maltraitances qu'ils subissaient à cette époque-là. 20 ans s'est passé, donc ils ne le reconnaissent pas. Mais aussi, les Égyptiens, et Joseph devait avoir le look de l'Égyptien moyen, hein, pas du tout le même look que l'Israélien moyen à cette époque-là. Pas du tout la façon de même s'habiller, la façon de se coiffer. Hein. Et Joseph ne s'adresse pas à eux en hébreu. Il leur parle en égyptien, puis il a un traducteur, mais il comprend tout ce qu'eux ils se disent entre eux. C'est génial, ça. T'sais, des fois, j'aimerais bien être une petite mouche, des fois, là, pour un peu savoir ce que les gens... Lui, il n'y a même pas besoin d'être une petite mouche, juste là, puis il comprend tout ce qu'ils disent. Il fait semblant de demander à son traducteur les traductions. Alors, il va être dur avec eux, en apparence. Il va les traiter d'espions. Il va les mettre au test. Et je vous garantis que j'aurais fait de même, et toi aussi. Peut-être même pire. Et pourtant, Joseph ne peut s'empêcher de retenir ses larmes. La Bible nous dit qu'il va se cacher pour aller pleurer. Tellement c'est un moment émouvant pour lui, tellement il est heureux de ce moment-là. Incroyable. Alors il va quand même trouver une petite stratégie très intéressante quand même. Il veut voir son petit frère Benjamin qu'il n'a pas connu. Alors il lui dit, vous allez chercher votre frère là-bas parce que moi je crois que vous êtes des espions. Alors pour me prouver que vous n'êtes pas des espions, vous allez chercher votre frère là-bas pour me prouver que ce n'est pas une histoire que vous inventez. Vous allez chercher votre petit frère Benjamin, puis moi en contrepartie, je vais garder un de vous. Hein, Siméon, hop, clac, dans une prison, sous leurs yeux, la Bible nous dit, sous leurs yeux, rac, il s'empare de Siméon et clac, en prison. Donc je le garde, hein, comme ça je m'assure que vous allez revenir, parce que vous allez revenir chercher votre frère, j'espère. Tout ça c'est test, hein, tout ça c'est test. Hein. Et lorsqu'ils reviennent, bon, je vous passe les détails, ils y vont, Jacob ne veut pas libérer Benjamin, etc. Il laisse du temps passer jusqu'à ce qu'ils aient de nouveau plus de vivres. Puis là, il se dit, il va falloir quand même que je les envoie, hein, on n'a pas le choix, sinon toute ma famille va... Donc il accepte finalement quand même de les envoyer avec Benjamin, avec crainte et tremblement. Et lorsqu'ils reviennent avec Benjamin, Joseph est tellement heureux. Il ne le montre pas encore, mais il est tellement heureux de voir son petit frère, tous ses frangins qui sont là réunis, qu'il peut retenir de nouveau son émotion. La Bible nous dit qu'il a quitté le lieu précipitamment et qu'il est allé pleurer dans sa chambre. Et lorsqu'ils repartent, il les a fait manger chez lui, il a fait tuer le veau gras, il a donné 5 fois plus dans l'assiette de Benjamin. Il devait se dire, lui, la grosse assiette devant lui, puis les frangins un peu 5 fois moins. Et c'est comme ça qu'il l'a fait, Joseph. Et lorsqu'il remplit leurs sacs sur leurs ânes, leurs sacs pleins de graines de blé, et qu'ils repartent, il dit à son serviteur, Joseph, il dit, tu remets tout l'argent qu'ils avaient, je veux qu'ils gardent leur argent, c'est l'argent qu'ils nous avaient donné pour acheter ce blé. Mais tu vas faire une chose, tu prends une coupe d'argent, puis tu la caches dans un des sacs de blé qui est sur l'âne de Benjamin, tu fais ça. Alors ils partent comme ça, et puis évidemment, au bout de quelques heures, Joseph, on voit son serviteur, puis il dit, non, on a une coupe d'argent qui a disparu chez nous, là, chez Joseph, là. Il dit, laissez-moi fouiller un peu vos affaires, les gars, là. Rac, puis il fouille les affaires, puis quand il arrive chez Benjamin, il ouvre les sacs de Benjamin, la coupe d'argent est là. C'est toi, mon gaillard, hein? Ah, c'est toi qui a volé chez Joseph, alors viens ici, on t'emprisonne. Et c'est là que Joseph va découvrir que ses frangins ne sont plus les mêmes. Parce qu'à ce moment-là, les frères vont dire non, 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 non. Parce qu'on ne peut pas faire. On ne peut plus faire ça, on ne peut pas faire ça deux fois. On ne peut pas faire ça à notre père. Ça ne se peut pas. Prenez-moi, les frères, viennent, prenez-moi la place de Benjamin. Il a fait une faute, c'est vrai. Puis eux, ils ne savaient pas que c'était un petit tour de passe-passe que Joseph avait fait. Mais il a fait une faute, il a volé une coupe. Mais prenez-moi la place. Non, je vais payer le prix à la place. Et puis là, Joseph craque et puis... C'est moi, les frères, c'est moi. Hé, hey, c'est Joseph! Il enlève sa perruque d'Égyptien. Hé, hey, regarde un peu! C'est moi, Joseph! c'est pas moi Joseph, mais c'est rien, c'est moi Joseph. Hé les frères. Et là, il y a un moment extraordinaire qui se passe. Extraordinaire. J'aimerais vous dire, on pourrait dire tellement de choses, mais j'aimerais vous dire ce matin que, après cette longue description de l'histoire de Joseph, résumée, rappel de l'histoire, une chose m'a particulièrement frappé. Dieu n'aime pas seulement ceux et celles qui font tout juste et qui filent droit. Il se réjouit quand un enfant, un de ses fils, de ses filles, cherche à bien faire, cherche à marcher dans ses voies, c'est ce qu'il réjouit, évidemment. Mais il n'aime pas seulement les enfants qui filent bien droit. Dieu aime aussi ceux qui se débattent au milieu du péché. On pense beaucoup à Joseph et c'est normal. Quel exemple extraordinaire, quel héros! Mais j'étais frappé aussi en creusant à nouveau ces textes de voir à quel point Dieu a un fardeau sur son cœur, celui d'aller chercher la brebis perdue, celui d'aller chercher le pécheur. Comment il donne encore une chance aux méchants? Nous, en général, on veut oublier les méchants. On veut plus y penser, les mettre de côté. Parfois, on en a besoin pour un temps. Parfois, on en a besoin pour un temps. Ce qui m'a fait là, ça m'a fait tellement mal, ça m'a tellement blessé. Il faut un temps où y a une distance qui est prise. Parfois, c'est vrai. Et Dieu n'oublie personne, lui. Dieu n'oublie personne, heureusement. Et comment il va tout mettre en œuvre pour donner une nouvelle chance à ses frères bourreaux, une nouvelle possibilité de leur faire grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Il va tout faire pour leur redonner une faveur qu'ils ne méritent pas. De leur faire connaître le pardon de Dieu. Si merveilleux et si libérateur. Et il va utiliser cela pour cela, ce merveilleux héros de Joseph. Cet homme au parcours semé d'embûches, ces embûches qui pourraient paraître tellement injustes si on se focalise sur un moment de sa vie, cette année en prison, jeté dans une cuve par ses frères, vendu comme esclave, etc., tenté par la femme de Potiphar, etc. Si on regarde ces choses-là, c'est comme nos vies. Tout à coup, on vit un moment de difficulté, un moment de combat, un moment d'épreuve, un moment de tempête, puis on est là, waouh! Et puis, c'est pas facile au milieu de tout ça. Et puis, c'est vrai que ça nous remet en question, et puis des doutes parfois qui nous assaillent. Mais Dieu, lui, il a comme le focus en arrière, et puis il regarde nos vies, et puis il dit, je suis encore en contrôle. Je tiens tout entre mes mains. Fais-moi confiance. Dieu a un plan. Dieu a un plan global pour la durée de la vie de Joseph et la durée de chacune de nos vies. Un plan dans lequel il allait forger Joseph dans les victoires de sa vie, mais aussi dans ses échecs. Les victoires seraient autant utiles que les échecs dans sa vie, que les épreuves de sa vie seraient autant bénéfiques que les moments de victoire. Pour devenir cet homme utile entre les mains de Dieu, pour accomplir son plan de sauver un peuple de la famine et pour réconcilier une famille. Premièrement, ce matin, tes embûches, tes erreurs, tes échecs, les choses douloureuses par lesquelles tu es passé ou peut-être par lesquelles tu passes aujourd'hui en ce moment, peuvent être des instruments entre les mains de Dieu pour bénir. C'est pas facile à se le dire. Mais voyez-vous, combien de fois j'ai été béni pendant ces 10 années que j'ai passées ici? Combien de fois j'ai été béni par ta vie, par vos vies? Combien de fois j'ai été béni dans mon bureau, en rencontrant quelqu'un qui était au fond du trou et qui avait besoin d'aide, besoin d'une écoute. Je l'ai fait tant bien que mal, mais souvent c'est ces personnes-là qui m'ont béni. Ce jour-là ou plus tard, parce que je savais ce qu'elles vivaient dans leur vie, je savais les combats par lesquels elles passaient, et de les voir s'accrocher à Dieu, malgré tout, malgré une séparation, malgré un divorce, malgré des enfants qui se sont éloignés de Dieu, et Dieu sait comment c'est terrible ce genre de choses qui nous atteignent dans nos vies, malgré un job perdu, malgré le chômage qui est là, malgré la célibat qui pèse et qui dure, etc., de voir des hommes et des femmes parmi vous, tenir avec Dieu, s'accrocher, mener leur vie, tant bien que mal, avec les combats, parfois les pleurs, parfois les luttes intérieures, mais de pouvoir vous accrocher à Dieu. Vous avez été des encouragements puissants et extraordinaires pour ma vie, et je le sais que ça l'est pour plein d'autres ici dans cette église, les uns les autres. Alléluia. Tes épreuves, tes combats, tes échecs, Dieu les utilise et Dieu peut les utiliser et Dieu aimerait les utiliser et va les utiliser si tu te mets disponible entre ses mains. Alléluia. Même au milieu des temps difficiles. C'est souvent au milieu des temps les plus difficiles que j'étais encouragé par des frères et sœurs dans leur combat à eux, quand c'était eux pour eux le plus difficile, de voir comment ils cherchaient à tenir malgré tout avec Dieu. Alléluia. Deuxièmement, quelle bonne nouvelle que tes prières, même après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Dieu les entend encore. Elles ne sont pas passées aux oubliettes, elles ne sont pas passées à la trappe. Tes prières, d'il y a 20 ans en arrière, Dieu s'en rappelle encore comme si c'était aujourd'hui. Il les a mis dans une boîte, il les a mis dans... Il les a recueillis, chacune de tes larmes. La Bible nous dit qu'il les a recueillis. Et ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, ça ne sera jamais en vain. Ne te décourage pas. Persévère, mon frère, ma sœur. Lorsque tu pries pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, ton appel qui peut-être ne s'est pas encore concrétisé, ces difficultés par lesquelles tu passes, prends courage, prends courage. Alors quel est le secret de cet héroïsme de Joseph? Qu'est-ce qui lui a permis de traverser toutes ces années de vie, parfois douloureuses, si souvent douloureuses, parfois d'angoisse, parfois de victoire aussi, et d'avoir un cœur libre malgré tout face à toutes ces blessures? Lisons ce texte de Genèse, chapitre 50, versets 14 et suivants. Je termine avec ceci. Après avoir enterré son père, donc il s'est passé 17 années, hein, depuis le moment où il s'est dévoilé à ses frères, c'est moi, il a fait venir la famille Jacob, toute la famille, une septantaine de personnes, il a fait venir dans le pays de Goshen, et ils se sont multipliés, et ils sont là depuis 17 ans, et Jacob décède, Jacob meurt. Joseph, après avoir enterré son père, donc ils sont montés en Israël pour enterrer Jacob dans le tombeau qu'Abraham avait acquis, Joseph revint en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné aux funérailles. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Qui sait ? Peut-être Joseph se mettra à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » 17 ans après, t'imagines, il culpabilise encore. Alors, ils lui envoyèrent un messager pour lui dire, « Avant de mourir, ton père Jacob nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, « Veuille, je te prie, pardonner les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. » En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant « Nous sommes tes esclaves !» Incroyable. Mais Joseph leur dit « N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu ?» Je pense qu'il pensait qu'il pleurait de rage. Encore. Il se jette à ses pieds « On sera tes esclaves. » Ils n'ont pas compris qu'il lui pleurait parce que « Mais dites pas ça, les frangins. Dites pas ça, je vous ai pardonné. » Soyez libres. Regardez ce qu'il va leur dire. N'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et leur parla affectueusement. Waouh! Joseph avait compris, et c'est ça qui le rend héroïque à mes yeux, Joseph avait compris qu'à travers les années de ses pérégrinations forcées, que Dieu conduit nos vies, il est souverain, parfois à travers les épreuves. Parfois à travers les épreuves, des vents contraires, des tempêtes qu'on ne comprend pas, qui nous déstabilisent. Et que ces épreuves nous forgent, nous brisent parfois, et en même temps elles nous épurent. Ce qui fait de nous des vrais chrétiens, des chrétiens transformés à l'image de Dieu parce qu'on lui ressemble, lui qui était brisé, meurtri, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie, à la croix, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est par ces meurtrissures aujourd'hui que nous sommes guéris. Que Dieu te guérit ce matin, qui veut te guérir de ces blessures du passé. Il veut en faire des forces. Il veut en faire des forces pour fortifier ta vie, être un témoin vivant. Alléluia. Quel héros ce Joseph. Il avait compris et accepté que Dieu seul a le secret pour nous conduire sur son chemin, pour nous préparer, nous forger, tisser dans nos vies l'étoffe d'un héros selon son cœur. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui avec ta vie. Pino, ça veut dire quoi, Joseph? Parce que Pino, c'est Giuseppe, en italien, c'est Joseph, hein, d'accord? Pour ceux qui ne savaient pas, il y en a qui disent « Ah, Tilt, ah, Pino, ah, c'est ça que c'est !» Ah, on appelle toujours Pino, mais c'est Joseph. Hein, Joseph, ça veut dire quoi, Joseph? Ah, merci Isabelle de m'avoir dit ça tout à l'heure. Celui qui se multiplie. Quel témoignage extraordinaire. Isabelle me disait tout à l'heure, tu me permets de dire ça, Isabelle? Hein? Isabelle me disait tout à l'heure qu'au début de leur mariage avec Pino, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, mais ça se peut pas, Pino, tu t'appelles celui qui se multiplie, dis donc, hé, mon pauvre ami, quoi. Seigneur, tu vas faire quelque chose. Puis aujourd'hui, ils ont trois merveilleux enfants, et Dieu fait des grandes choses. Et quel témoignage extraordinaire que ce nom Joseph. Quel exemple de ce héros que Dieu a pu utiliser, un héros, un homme ordinaire. Devenir un héros extraordinaire entre les mains de Dieu et multiplier les bénédictions autour de lui. Et j'aimerais te dire ce matin que tout comme Joseph, Dieu a ses capacités, c'est des capacités surnaturelles que seul lui a, que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes, mais des capacités de multiplication. Des capacités de multiplication dans ta vie. Multiplier la guérison si tu en as besoin. Multiplier l'amour de Dieu si tu en as besoin et que tu te sens rejeté et que tu te sens en manque d'amour. Multiplier les possibilités pour ta vie si tu es en recherche de travail, si tu es dans le désarroi dans la vie dans laquelle tu es. Il est capable de multiplier les solutions pour toi parce qu'il est un Dieu de multiplication. Alléluia. Celui qui multiplie, c'est génial, quoi. Extraordinaire. Moi, je prie que ça s'imprime dans nos cœurs. Je prie que ça se grave dans nos cœurs ce matin. Chacune de nos vies, comme un encouragement puissant. Ta vie n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Ton parcours, Dieu veut et peut l'utiliser. Il va l'utiliser, il va le multiplier si tu te mets à sa disposition, si tu choisis de lui soumettre toute ta vie, tes pensées, tes sentiments. C'est par là que ça passe, c'est souvent là que ça bloque, c'est souvent là que les choses elles bloquent pour être libre. Libre d'aimer. Libre d'aimer à nouveau, libre de faire confiance à nouveau, libre de pardonner, libre de soi-même. C'est ce que Joseph avait compris et c'est ce qu'il vivait. Et c'est ce qui a fait de lui un héros utile entre les mains de Dieu, magnifique, qui se dresse devant nous ce matin comme un exemple, comme une inspiration, comme un modèle pour chacun d'entre nous, pour nos vies là où on en est. Dieu peut faire de nous ces héros ordinaires qui peuvent accomplir l'extraordinaire, ces choses que l'homme ne peut pas arriver à faire par lui-même. Amen. On incline la tête quelques instants et je termine là. Alléluia. Merci pour cet exemple, Seigneur, qu'on trouve dans ta parole et que tellement riche et bienfaisant pour nous, Seigneur. Parfois, quand on pense à un héros, on pense à quelqu'un de avec l'épée à la main et puis qui gagne du terrain, puis waouh. Mais Joseph était un héros pas à cette image-là. Mais ça a quand même été un héros magnifique, Seigneur. Un héros de pardon. Un héros de réconciliation. Alléluia. Je te remercie ce matin, Seigneur, de faire ce travail aussi dans nos vies. S'il y a des choses qui nous bloquent, nous, qui nous empêchent de pouvoir pardonner, de pouvoir tourner une page, qui nous tiennent encore liés aujourd'hui, qui empêchent la réconciliation. Parfois, ce n'est pas possible dans certaines circonstances. D'être réconcilié avec la personne qui nous a fait du mal, c'est parfois impossible. Je prie, Seigneur, que tu viennes faire ce travail de guérison profonde dans les cœurs et de libération. Alléluia, tu es venu pour nous rendre libres, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin, alors qu'on a les yeux fermés et que par respect pour chacun, est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui disent, c'est vrai, moi, il y a des choses du ressentiment, il y a des choses de... il y a des domaines de ma vie ou une situation que je n'arrive pas à passer par-dessus. Et quand je regarde Joseph avec ses frères, je me demande comment c'était possible. Je me mets à sa place, je lui dis, j'aurais pas pu, j'arrive pas. Qui dit ce matin, mais je crois, Seigneur, qui veulent choisir de dire ce matin, j'arrive pas par mes propres forces. Et certainement que Joseph, par ses propres forces, il ne serait pas arrivé non plus. Avec ton aide, Seigneur, c'est possible pouvoir passer une autre étape, pouvoir vivre quelque chose de l'ordre d'une libération. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui veulent juste lever la main et dire, moi j'ai besoin de ça, j'ai envie que le Seigneur vienne me faire ce travail, cette œuvre dans ma vie. Oui, 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 oui. Oui. Alléluia. Alléluia. Toutes ces mains qui se lèvent, je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, je mesure sur ton cœur la somme de souffrance avec ces quelques mains qui se sont levées, la somme de souffrance qu'il peut y avoir derrière ces mains levées et l'histoire qu'il y a derrière ces frères et sœurs. Certains, je connais leur histoire, beaucoup, je ne la connais pas. Mais toi, tu les connais, Seigneur. Toi, tu sais pourquoi, Seigneur, ils luttent encore à l'intérieur d'eux-mêmes face à ces choses qui font mal. Tu as porté tout ça à la croix, Seigneur. Nos fardeaux, nos souffrances, nos maladies, tu les as portés à la croix, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, ce matin, que tu viennes comme un baume de guérison, que tu viennes attester dans le cœur de mes frères et sœurs ce matin que ce n'est pas à travers un quelconque effort humain, mais c'est en regardant à toi, en puisant en toi, que cet amour va découler dans leur vie, ton amour, ton approbation pour eux. Le fait que leur vie n'est pas un échec parce qu'ils ont vécu une blessure, ou qu'ils ont été amoindris, ou qu'ils ont été violentés, ou qu'ils ont subi des choses. Que leur vie n'est pas vouée à être un échec jusqu'à la fin, mais que tu as un plan. Alléluia, Seigneur. Que tu as un plan encore, je prie que ta guérison descende. Que je prie que ton pardon descende, Seigneur. Je prie que la réconciliation descende, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Qu'ils puissent vivre la liberté en Jésus, qu'ils ne vivent pas, ou peu. Qu'ils puissent découvrir une nouvelle liberté. J'ai vraiment à cœur, Seigneur. Que tu fasses cette œuvre dans les vies ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.